Deutsche Welle, Ökonomie et Développement.
L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux.
Qui mieux que Bourvil pour nous conduire avec humour vers notre sujet du jour, le fer. La commercialisation des métaux usagés est devenue une véritable industrie qui nourrit de nombreux habitants au Bénin. Et puis dans ce numéro du magazine Économie et Développement, on découvrira comment éclairer des bâtiments grâce à des bactéries, de quoi révolutionner dans le futur l'accès à l'énergie. C'est Claire-Marie Kostmann au micro, bienvenue.
Gakpo gré gré, quelqu'un gâté, ventiro gâté, fait gâté, gakpo gré gré, fait gâté.
Ils sont des milliers à prendre d'assaut les villes du Bénin, ces collecteurs de ferraille, premiers acteurs au bas de l'échelle de la filière. Avec leurs clameurs, derrière leurs charrettes, ils ne passent jamais inaperçus. Moïse est un jeune Togolais de la vingtaine. Depuis 8 heures, il était dans les rues de Cotonou, sillonnant les ménages, les dépotoirs et les garages à la recherche de ces fers usés, devenu objet de grande valeur. À la fin de la journée, il retourne à sa base retrouver d'autres détaillants à qui il revendra sa moisson de la journée.
Bon, j'ai juste ça à 500.
Ça c'est quoi?
Ça c'est 20 euros. Bon, j'ai juste ça à 1000 francs.
Ça c'est quoi?
Et en prix. Oui, j'ai juste ça à ça là, c'est fait. Ce que le maçon qui utilise là. Et en moi, j'ai juste ça à 1000 francs.
Donc c'est les déchets?
Oui, c'est les déchets là.
Voilà.
1000 francs. Bon, et ça là? Il y a bounon dedans. Bon, bounon qui est dedans, c'est 2000, j'ai juste ça.
Ok. Donc aujourd'hui, tout ce que tu as acheté là,
au moins, ça fait 10 000 gozas.
Ces 10 000 francs représentent au fait une partie du capital de la journée, un préfinancement des patrons, c'est-à-dire les grossistes, à qui est revendue la matière première au double et parfois au triple du prix d'achat. C'est souvent une très bonne affaire pour les détaillants, se réjouit Mathieu, qui venait de revendre un réfrigérateur usagé et une carrosserie de voiture accidentée.
Pas de point de marché, tu as vendu tout, tu as payé quelqu'un qui travaille, l'agent des factures, au moins tout va trouver, au moins des fois 20 000, des fois 15 000, des fois 10 000, tu vas faire dépendre, tout dépend ça, tu vas trouver quelque chose.
L'opération est encore plus rentable lorsque la marchandise à dépiécer est achetée en gros, car les patrons en question les rachètent au kilogramme, même si les prix varient d'un grossiste à un autre. Moukaram Bankolé, un jeune enseignant reconverti, s'offre lui, par exemple, le kilo à 100 francs CFA.
Parce que je sais que je vais pouvoir vendre à 110 ou à 115 francs le kilo, ce qui vous fait 100 000 la tonne, et je peux la revendre peut-être à 110 000 ou 115 000. Ça dépendra aussi de tout ce que j'ai à l'intérieur. Ailleurs, vous allez voir des gens qui payent à 90 000 la tonne, ou d'autres qui le prennent à 85 000. Donc chacun fixe ses prix en fonction de ce qu'il a.
À ce niveau de la chaîne interviennent d'autres acteurs non moins importants de la filière, les casseurs. Ils sont souvent des mécaniciens et leur rôle, le plus dur d'ailleurs, est de mettre ces déchets ferreux en petits morceaux, de faire un tri minutieux des stocks constitués et procéder à l'empaquetage. Leur rémunération doit être à la hauteur de la tâche.
Un casseur qui vient par exemple chez moi à 8 heures et qui travaille par exemple jusqu'à 16 heures peut banalement se retrouver en fin de leur journée avec 12 000, 15 000, parfois même 20 000 francs.
Vous savez,
oui, CFA. Lorsque vous arrivez à faire le tri, c'est-à-dire vous cassez un moteur de véhicule par exemple, vous triez, vous mettez le fer à part et puis l'aluminium à part, c'est 2500 parfois. Vous imaginez, il y a des gars qui ont la possibilité de casser même 10 moteurs par jour. C'est en fonction de cela que nous les payons.
Au sommet de la filière se trouvent les exportateurs. Ils sont généralement des expatriés, chinois, libanais, sri-lankais, indiens, et leur cercle n'est pas facilement accessible. Entre ces derniers et les grossistes nationaux, on retrouve d'autres acteurs tels que les négociants, les transporteurs qui, à l'instar des chargeurs, jouissent également de l'activité. Pierrot fait partie des jeunes qui remplissent au quotidien les conteneurs. Tout comme les collecteurs, les casseurs, les transporteurs et les autres intermédiaires, Il ne craint le prélèvement d'aucune taxe sur ses revenus.
Quand on charge un conteneur, on en a de 6. Ça peut terminer dans le même jour. On peut faire 24 tonnes ou bien 25 tonnes. Ou bien il y a des yards qui trouvent au moins 20 tonnes dans le conteneur. Bon, là, on va nous donner au moins. Il y a des yards qui donnent au moins 35 000 yards, parfois 40 000. 6 personnes. Dans les 6 personnes, il y a un chef conteneur pour nous. Lui, il va prendre au moins 10 000. Si on a terminé à 6, on va prendre 6 000, 6 000. Toi qui es en haut, toi tu vas prendre 10 000. C'est comme ça qu'on fait.
Si pendant longtemps cette activité a échappé à l'attention du fisc, depuis l'arrivée du régime du nouveau départ, les donnes ont changé. Les gros bonnets en particulier sont astreints à des taxes sur leurs transactions, ce qui n'est pas sans répercussion sur les prix d'achat et de vente des ferrailles.
Nous payons désormais 59 francs par tonne à l'exportation. Et lorsque le blanc qui prend avec vous doit payer 59 francs, nécessairement, la déduction, c'est dans ce qu'il achète, c'est dans la matière première. On devrait considérer que nous, acteurs de la filière ferraille, nous sommes en réalité une partie intégrante de ceux-là qui s'occupent de l'assainissement de nos villes. Donc par conséquent, la solution aurait été peut-être de nous créer pourquoi pas un fonds pour soutenir nos jeunes, les ouvriers qui travaillent avec nous.
Même si elle vacille aujourd'hui du fait des nouvelles mesures du gouvernement, cette industrie continue de nourrir ses acteurs et des milliers de conteneurs de ces déchets ferreux sont au quotidien convoyés en Europe, en Amérique et en Asie. Rodriguez Ojea Cotonou pour la Deutsche Welle.
La lumière qui vient de la mer ou comment éclairer des villes grâce à des bactéries. On dirait un programme tout droit sorti d'un film de science-fiction et pourtant une start-up française planche déjà dessus. Sa fondatrice est Sandra Ray, mise à l'honneur notamment par le célèbre MIT de Boston. Alors comment lui est venue l'idée de Glowy, son entreprise? Écoutez-la.
Alors en 2013, j'étais étudiante dans une école de design. Et j'ai eu l'occasion de participer à un concours dont le thème était la biologie synthétique. Et c'est en fait devant une vidéo sur les espèces sous-marines qui sont capables de produire de la lumière, donc ce phénomène de bioluminescence, que je me suis dit que c'était peut-être un vrai moyen de combattre à la fois la consommation d'énergie, la pollution engendrée et les problématiques sanitaires quand j'en l'éclairage électrique. Et donc que finalement la réponse était peut-être dans la nature. Et donc j'ai commencé à travailler autour de l'utilisation de la bioluminescence comme solution durable pour illuminer les villes de demain.
Mais comment est-ce qu'on en arrive, voilà, on parle d'éléments naturels dans la mer, à se dire « Ah, bah, finalement, ça pourrait éclairer des villes, des vitrines, des bâtiments ».
Alors il y a plusieurs choses. Déjà, la bioluminescence, c'est un phénomène qui est très connu depuis pas mal d'années. Donc c'est un phénomène sur lequel il y a beaucoup de littérature et c'est surtout un phénomène sur lequel on a identifié en fait plusieurs gènes qui codent pour cette réaction-là. Et donc aujourd'hui, on a des technologies justement comme la biologie synthétique qui nous permettent de coder finalement grâce à de l'ADN exactement comme on coderait avec du code informatique. Donc à partir du moment où on a ce code-là, on va pouvoir travailler avec pour le reproduire en laboratoire et l'améliorer pour en faire une vraie solution durable.
Comment ça s'est passé avec les investisseurs en disant « Ah oui ». J'ai ce projet-là, j'aimerais monter ma start-up. Quels ont été les échos?
Il y a un vrai travail qu'on a fait, notamment en allant rencontrer tous les acteurs qui pourraient être intéressés par la bioluminescence, à la fois les grands groupes de l'énergie, les groupes hôteliers, les collectivités. Et en fait, en discutant avec eux, en identifiant leurs besoins, nous, ça nous a permis de préciser aussi notre technologie, de donner une nouvelle direction et d'avoir des produits et des offres qui correspondent à leurs demandes.
Et on peut déjà voir des installations alors?
Alors aujourd'hui, on fait des installations éphémères événementielles avec les premiers produits qu'on a réussi à développer. Et pendant ce temps, on travaille en recherche et développement pour l'augmentation des performances de la technologie pour pouvoir la mettre, pour pouvoir faire des expérimentations en milieu urbain d'ici quelques mois.
D'accord, donc ce serait dans les prochains mois qu'on pourrait par exemple avoir un bâtiment éclairé grâce aux bactéries.
Alors disons que dans les deux prochaines années, l'objectif c'est de faire un premier projet pilote in situ, donc en ville, et puis ensuite de développer de manière industrielle le système.
Et est-ce que ça a un coût important?
Ça dépend des technologies qu'on utilise. Il y a plein d'avantages qui font que ça réduit le coût. Déjà, on est sur une matière première qui se cultive, donc qui se reproduit elle-même, contrairement à une matière première qu'on vient extraire. Donc ça devient très intéressant là-dessus. Ensuite, on a des coûts de fonctionnement, mais qui sont balancés aussi par des gains qu'on peut tirer, puisque toutes ces bactéries, en fait, qu'on cultive pour faire de la lumière, c'est de la biomasse, et cette biomasse-là, elle peut ensuite être revalorisée en d'autres choses derrière, soit en énergie, soit en bioplastique, soit en biodiesel. Et donc, on peut créer de la valeur ajoutée à partir de cette lumière qui est produite.
Et est-ce que vous pensez à peut-être le faire dans des pays où l'accès à l'énergie est encore plus compliqué? Je pense aux pays africains, dans certains pays asiatiques.
Oui, c'est une vraie ambition qu'on a à long terme. Maintenant, pour entrer dans ces marchés-là, il faut que la technologie soit parfaite et fonctionne extrêmement bien dans les conditions les plus extrêmes également. Donc, il y a encore du travail en termes de performance, mais c'est évidemment un des objectifs.
Un de vos biais, ça pourrait être de vous lier avec des gros groupes énergétiques qui auraient les moyens de soutenir cette technologie?
Exactement. En fait, nous, on est experts de tout ce qui va être biologie de la lumière et comment est-ce qu'on améliore cette lumière à travers la biologie. Et les grands groupes de l'énergie ont plein d'autres choses. Ils ont déjà les moyens de commercialiser des services énergétiques, qui commercialisent déjà. Donc, eux, c'est une offre supplémentaire qu'ils vont pouvoir offrir soit aux promoteurs, soit aux collectivités, par exemple, sur le domaine de la lumière et sur le domaine de la création d'énergie, puisque comme je disais, on peut aussi créer de l'énergie à partir de cette lumière. C'est une chaîne de valeur qui est intéressante et un partenariat qui est intéressant parce que c'est très complémentaire.
C'était Sandra Ray de la société Glowy qui compte actuellement 15 personnes. Si vous voulez réentendre ce magazine économie et développement, eh bien c'est simple, allez sur notre site dw.com/français, puis allez dans la rubrique médiathèque. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.